Bonsoir et bienvenue pour ce cinquième épisode de Cyclocast, le podcast du vélo au quotidien. Ce soir, tout d'abord, excusez-moi, je suis Prokylus.
Je suis Grincheux.
Et je suis Mogor.
Ce soir donc, après les news de circonstances, on en a quelques-unes puisque pendant tout le mois d'août on n'a pas pu vous faire notre épisode. J'inaugurerai un petit peu cet épisode par un petit billet d'humeur. J'ai intitulé ça les On ne dit pas. Un nouveau petit format que je vais maintenant faire de temps en temps pour le podcast. Derrière, c'est Mogor qui nous fera un petit article sur la manière de rouler en jupe, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Puis Grincheux nous fera un petit compte-rendu du Paris Cargo Bike Meeting qui s'est tenu à Paris quand ?
Le 29 juin.
D'accord. Bon, on dit pas plus.
De quelle année ?
De 2014. Et puis pour finir, Mogor, je crois que nous avons eu quelqu'un qui a donné la réponse de la devinette du dernier épisode, je crois.
Mais comment tu révèles déjà des choses sur la fin ?
Non, je tease.
On en reparlera, mais
je
oui.
Je tease. Et là, tout le monde va vouloir.
Effectivement, nous avons un gagnant.
D'accord.
Nous avons un auditeur.
Nous avons un auditeur, génial. Quelqu'un nous écoute.
Un poditeur,
tout à fait.
On lui parlera à la fin, si vous voulez bien.
D'accord, ça marche. Donc, écoutez, pour les news, qui veut commencer ? Moi, j'ai deux news sur Lyon, mais...
Moi, vu que j'en ai plein, je pense que c'est moi qui vais attaquer.
On t'en prie.
Alors, ma première news, concerne un étudiant en design au Royal College of Art de Londres, Aniruddha Surabhi, qui a été victime d'un accident de vélo, et il s'est dit, mais quand on a un accident de vélo, on a facilement des séquelles qui sont graves, parce que lui-même a eu une commotion cérébrale.
Waouh, tu commences par une news encourageante. Ouais. Ok,
et
donc qu'est-ce qu'il a
donc
pensé ?
Il a étudié un peu comment étaient faits les casques et il s'est dit mais il y a moyen d'améliorer ça. Donc il s'est inspiré de la boîte crânienne du pivert qui est capable d'absorber des chocs violents et a essayé de reproduire la structure à l'aide de carton ondulé. Et il s'est rendu compte que c'est un matériau qui est beaucoup plus solide qu'on ne le croit. Et en moyennant une solution hydrofuge pour le rendre imperméable, on arrive à avoir un casque plus léger que beaucoup de casques en polystyrène, plus léger, plus résistant et qui peut même être réparable puisqu'il suffit juste de changer la partie qui a été abîmée.
Je crois qu'il y a une paire de commerciaux et d'industriels du vélo qui du coup vont s'en mordre les doigts.
Donc, si j'ai bien compris, le pivert, c'est l'oiseau qui tapote avec son bec.
Oui, jusque là.
Du coup, j'imagine qu'il absorbe effectivement
beaucoup de chocs.
Et là, l'innovation du casque, c'est le matériau peu cher,
voilà.
Plus le fait que ça joue sur la structure, plus
en fait,
que sur
voilà,
le matériau.
Il a fait une structure type nid d'abeille avec du carton ondulé.
Peux-tu nous redire le nom de cet étudiant ou comment on va retrouver
Je vais mater sur son épaule parce que moi je le vois. C'est Aniruddha Surabhi.
D'accord.
Voilà. Alors, j'enchaîne avec Rue 89, l'édition lyonnaise de Rue 89 qui a fait un billet fin juillet dernier sur la mode du vélo vintage qui était également un accélérateur du vélo en ville. Donc un article qui parle aussi bien des boutiques vintage avec soit en objet de déco, soit en des boutiques qui sont plus spécialisées dans des vélos au style ancien, mais également l'atelier associatif du recycleur qui permet de retaper son vélo, quel que soit son âge, et toute la mouvance qui vient avec d'avoir des gens qui retapent des vélos, qui anciens ou non, et de plus en plus de monde à vélo en ville.
Ouais, qui permet aussi de trouver d'ailleurs deux trois pièces aussi, puisqu'on récupère plein de vélos anciens au recycleur.
Tout à fait.
Alors, ce soir, j'ai quelques news et je voudrais vous parler de quelque chose d'assez léger, puisque en lisant un magazine féminin que je ne souhaite pas citer, afin de conserver un peu de dignité, j'ai découvert un nouveau style de fitness.
Contre un chèque d'un bon montant, je vous le révélerai. Voilà, vous pouvez m'envoyer des mails.
Je pense que ça n'intéresse personne en réalité. Donc, c'est les nouveautés fitness de la rentrée. Dans les nouveautés fitness, il y a le Groove Cycle. 60% cycling, c'est comme ça que c'est écrit, plus 40% de danse. Difficile d'imaginer un combo plus improbable et plus addictif. Le principe, pédaler en danseuse tout en enchaînant des mini-chorés avec le haut du corps sur des tubes de Rihanna ou Beyoncé.
Le vélo.
Donc, voilà. Aucun risque de forcir des cuisses et des mollets. Le Groove Cycle renforce et sculpte tout en travaillant le cardio, et la coordination. Et j'imagine que ça existe surtout sur Paris. J'avoue que j'ai pas regardé s'il y avait ça dans d'autres grandes villes.
Il faut être en cuissard ou pas ?
Ça n'est pas précisé. Par contre, j'ai l'impression que c'est à destination des femmes. Mais sinon, vous pouvez aussi faire comme nous, faire du vélo en ville. Alors, je sais pas si vous pouvez mettre votre casque audio et vous déhancher le haut du corps sur des mini-chorés, je ne sais quoi, mais...
Ouais, voilà. Le mieux, en fait, c'est simplement de tout simplement se déplacer à vélo, comme ça au moins on allie l'utile à l'agréable. Enfin, l'utile à l'utile.
Écoute, je lisais ça, je vois Groove Cycling, c'est à la mode, tout simplement. Voilà.
Ah, je jugerai pas parce que j'ai un petit scoop. Moi, je me suis mis au roller il y a quelques temps. Ça vaut son petit pesant de cacahuète. Et là, pour le coup, c'est pas pour me déplacer. Donc.
Ok, donc j'enchaîne. Donc ma news suivante concerne deux jeunes filles, Claire et Lucie, qui ont lancé un projet, recettes et bicyclettes.
Oh, je
savais que ça te plaît.
J'avoue que...
Donc, Grincheux, il m'a fait lire, il y a une recette de pignons de cassette en 11-32 à la béchamel. C'est super bon.
Quoi ?
Non, c'est pas du tout ça. En fait, donc, ce sont deux amis de fac qui, le diplôme en poche, sont partis voyager à travers l'Europe de l'Est pour rencontrer des grands-mères et récupérer toutes les recettes de cuisine, les secrets de recettes qu'elles avaient, et elles l'ont fait à vélo. Donc, je n'ai pas retrouvé l'itinéraire complet, mais elles ont traversé l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie.
Et combien de recettes ? Ou des recettes, enfin, quel ordre de grandeur ? 10 recettes, 100 recettes, 1000 recettes ?
Je ne sais
pas,
parce que j'ai le site, mais j'ai pas la liste de ce qu'elles ont collecté.
Je pense que je suis grillé, je m'intéresse plus à la nourriture aux recettes qu'au vélo.
Oui, mais ça, on le savait.
Tiens, nous mangeons un...
Oui, vas-y.
Nous mangeons un crumble actuellement et c'est un crumble sans lait et sans gluten, donc autant vous dire que...
Alors, il faut que je sois honnête, ça me touche énormément, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on enregistre, c'est généralement chez Mogor, et elle... À chaque fois, elle cuisine sans gluten pour moi parce que je suis intolérant et ça me fait super plaisir. Et effectivement, ça tue tout, généralement, ce qu'elle cuisine.
Et donc, je teste des nouvelles recettes, d'où recettes et bicyclettes. Voilà, ça m'intéresse.
Alors,
la suivante.
La suivante. Plusieurs sites s'interrogent, à savoir, est-ce que les Suédois iront travailler au Danemark à vélo ? Pourquoi cette question ? Parce que la plus grande autoroute cyclable internationale devrait bientôt relier le Danemark et la Suède. Donc c'est un grand projet. Parce que,
à quelle échéance ? C'est pour poser des congés que je demande ça.
Alors, je vois marquer le nom du projet, c'est Horizon de 2070, donc on a un peu de temps pour 2070.
Ah oui, effectivement.
Ça sera plus tôt.
En fait, c'est un pont qui fait quand même 7,8 km de long et qui va enjamber le détroit de l'Horizon qui sépare la Suède et le Danemark.
Alors peut-être en fait, c'est nos enfants qui nous trimballeront en pinot ou dans une chariote à vélo sur ce pont.
Mais je n'ai pas vu de...
Je pense que ça sera plus proche quand même. Hein.
Pour qu'on en parle tant que ça aujourd'hui, c'est que c'est quand même un projet qui est assez proche.
Est-ce que tu te proposes de nous renseigner la prochaine fois sur avancées au fur et à mesure ?
Je vais essayer de vous faire un point là-dessus la prochaine fois.
Bon, puis ça sera à l'occasion d'une balade.
Ouais, une belle balade, mais...
De vacances ?
Oui, des belles vacances. Moi, j'ai toujours rêvé de faire le Danemark, donc voilà.
Ah oui, non, mais c'est toujours très intéressant.
Donc c'est mon tour, moi je vais vous parler, bon bien sûr les news toujours plus ou moins axées sur Lyon, hein. Je suis un petit peu navré parce que c'est vrai que c'est celle qui me tombe sous la main en premier. À Lyon, nous organisons la troisième édition de notre convergence qui aura lieu le dimanche 21 septembre, durant l'après-midi, voilà. Il suffit de chercher sur internet Convergence Lyon, vous tomberez sur le site adéquat, vous aurez toutes les horaires et tous les départs. Donc cette année les mairies ont décidé d'un petit peu de se relâcher, on n'a que quelques mairies qui participent avec nous, donc du coup ça sera 100% associatif, mais on compte avoir beaucoup de monde.
Ok, alors moi j'enchaîne avec un sujet qui me tient toujours à cœur, les vélos cargo. Et je suis tombé sur un billet qui raconte, alors il n'y a que la première étape pour l'instant, la fabrication d'un vélo cargo. Donc la personne est partie d'une remorque et d'un vélo et envisage de les accoupler. Non, ce n'est pas dégueulasse. Pour en faire un triporteur. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est que la première partie du projet.
C'est Monster Garage du vélo cargo ?
C'est un peu ça, oui. Donc, je vous mettrai le lien sur le billet du podcast.
N'empêche, ce serait énorme de faire ça. Monster Garage, je ne sais pas si tu connais.
Absolument pas.
Vu ta tête, je ne pense pas. Donc, en fait, c'est une émission de bagnole, une émission américaine où les participants sont des spécialistes, des mécaniciens, etc., spécialistes, constitués en une équipe juste pour l'émission, et ils ont un défi à relever en une semaine. Par exemple, ils prennent comment ça s'appelle les voitures, le drift, les voitures de course qui sont pointues et qui glissent sur les côtés. Ils la couplent à une charrette à hot dog et ils font la charrette à hot dog la plus rapide du monde.
Allez, un dragster.
D'accord. Un dragster, pardon.
Ok. Ah non, parce que moi je connaissais une émission, mais c'était il y a des années et des années.
Faire ça pour le
J'avais fait, une petite copine à la fac qui elle regardait Pimp My Ride. Des gens qui avec une vieille
bagnole. Pimp My Ride, c'est sur l'apparence beaucoup. Ouais. Là, c'est vraiment sur le. Voilà. C'est plus technique. Ça te plairait peut-être pour l'aspect technique en fait.
D'accord.
Bon, on te fera voir.
On pourrait voir ça.
La perversion là.
Oui. On verra plus tard pour le Monster Bike Garage.
Si dans un mois vous me voyez arriver avec un gros poêle à mazout,
avec un Hummer,
c'est foutu, je suis mort.
Alors, ma news suivante concerne un Américain qui, on va dire, beaucoup de ses concitoyens, est en forte obésité. C'est-à-dire qu'il pesait 570 livres, donc pas loin de 300 kilos. Et plutôt que de se faire opérer, il a décidé de se mettre à faire du cyclocross pour perdre du poids. Et ça marche parce que en l'espace, je l'ai pas. Il a perdu quand même. Il a quand même perdu 200 kilos. Non.
Il pesait 200 kilos.
Non, il pesait près de 300 kilos.
Waouh.
Il en a perdu 100. Je ne me souviens plus en combien de temps, mais en 2 ans, voilà, en 2 ans, il a réussi à perdre 200 kilos, 100 kilos, voilà, je vais y arriver.
Il a perdu 200 livres.
Voilà. Il a perdu 200 livres. Oui, mais voilà, c'est
en 2 ans, 200 livres, ah oui, quand même, c'est
100 kilos en 2 ans, c'est quand même énorme.
C'est important,
c'est un sacré exploit, oui.
Et il a participé à sa première course de cyclocross. Alors, bien entendu, il y va pas pour la gagne, mais pour lui, c'est déjà la victoire, c'est déjà d'arriver là. Et voilà, le vélo, comme quoi, c'est bon pour la santé. Mais
il était suivi par des médecins quand même, ou il a fait ça tout seul dans son coin ?
J'avoue.
Ah voilà, tu nous sors des news.
Survolé. J'ai pas l'info surtout.
Très bien. Je posais la question parce que je suis curieux.
Mais bon, après, il participait dans un club, donc je pense que au sein du club, il y a des gens qui devaient quand même surveiller qu'ils fassent pas n'importe quoi.
Et dans ce genre de club, il y a assez souvent dans l'eau sur une vingtaine de personnes, il y a souvent un médecin qui traîne et qui a même de suivre la chose.
Ou qui suit le club. Oui, non, je demandais parce que c'est bon pour la santé, mais
faut pas le faire
dans le cas de ce monsieur, c'est quand même assez important, quoi. Alors, je tenais à saluer la parution d'un nouveau magazine. On parlait du pont entre la Suède et le Danemark. Peut-être qu'ils en parleront dans le prochain numéro du magazine 200. C'est pas vraiment sur le vélo au quotidien. Il s'agit d'un magazine sur le vélo de route autrement. Le numéro 1 est paru à l'été 2014. Et pour l'avoir pas mal feuilleté, un peu regardé d'un peu plus près, tout simplement, ça donne des très très bonnes idées de vacances. Et ça s'adresse à un public plutôt débutant, plutôt novice, plutôt amateur, et ça c'est agréable, puisque le premier numéro c'est « Vacances, partez à vélo, 5 jours en Sardaigne », avec une interview de gens qui ont fait certains trajets.
C'est vrai que c'est un magazine qui n'est pas du vélo au quotidien, par contre qui traite pas, qui n'est pas non plus le vélo de route pour enquiller des kilomètres, et quel est le meilleur produit pour la meilleure barre énergétique.
En fait, au final, c'est un magazine pour les vélos, pour les cyclistes les sacochards, ce qu'on appelle les sacochards, c'est-à-dire les cyclo-randonneurs.
Sacochard
nous trois, voilà.
Oui, un peu, oui, voilà, ouais. Par exemple.
Non, c'est plutôt orienté randonneur et grand randonneur.
Et ça, on est bien placé pour le savoir tous les trois. C'est vrai que la cyclo-rando et le vélo urbain, globalement, ça s'accorde plutôt bien ensemble.
Ça s'accorde bien parce que tu peux faire du vélo urbain quand tu travailles, de la cyclo-rando pendant tes vacances.
Voilà, c'est très complémentaire.
C'est pour ça que c'est complémentaire. Bravo à eux, j'espère qu'ils vont continuer.
C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Voilà, moi, je dois avouer que j'ai pas encore pu vous l'emprunter, et puis je voudrais surtout l'avoir pour moi. Et je pense que je vais vite filer dans une librairie pour essayer d'en trouver un des derniers exemplaires.
Alors, moi je suis tombé sur un article qui traite d'un point, en fait. qui est que quand les ados ou les jeunes adultes circulent à vélo, donc prennent l'habitude de circuler à vélo dès l'adolescence, et ben souvent ils gardent cette habitude quand une fois arrivés sur le monde du travail, mais que pour les faire venir au vélo en étant jeunes au vélo urbain, et ben il fallait déployer les pistes cyclables. Donc tous les faits des pistes cyclables et des infrastructures sur l'usage des jeunes, et que quand on arrive à capter les jeunes sur les déplacements à vélo, ils gardaient ces habitudes-là par la suite.
Ouais, c'est comme pour le tabac, quoi, en fait. On essaie de prendre aux plus jeunes.
Exactement.
D'accord, merci de cette comparaison.
Oui, mais là, au moins, c'est pour une bonne cause, tu me diras.
Et alors j'enchaîne immédiatement avec un autre article. Donc à New York a eu depuis 3 ans une grosse politique de mise en place de pistes cyclables. Il y a les premiers chiffres qui sont apparus sur l'accidentologie. Donc après 3 ans d'installation des pistes cyclables à New York, il y a eu 17% d'accidents en moins pour tous les usagers de la route. Spécifiquement pour les cyclistes, 74% en moins. Donc voilà, c'est des très très bons résultats qui sont très encourageants pour le fait de l'intérêt de mettre des pistes cyclables. Il y a tout un PDF qui explique comment sont faites les pistes cyclables, quels sont les différents types de pistes cyclables qui sont mises en place à New York, avec des photos, des schémas qui expliquent comment ça s'est fait, et puis des tas de diagrammes, de graphiques sur les blessures, l'évolution des accidents, des blessures pour les cyclistes, pour les piétons, pour les automobilistes, etc.
Il faut avouer que je suis devant l'écran de Grincheux, je vois effectivement il y a un PDF qui est très très bien fourni.
Alors c'est carrément un PDF officiel qui vient directement de la mairie de New York. Donc c'est même pas...
Donc maintenant c'est moi qui vais embrayer sur une petite news. Les gens qui suivent un petit peu les actualités vélo ont dû entendre parler que à Lyon, eh bien, il y avait eu une installation de radar automatique pour le contrôle de vitesse des vélos à la sortie du tunnel de Croix-Rousse. Ça fait suite aux quelques accidents qu'il y a eu dans le tunnel, dont un grave, une personne qui a perdu l'usage de ses jambes. C'est un petit peu surprenant. Alors, je me suis un petit peu penché sur le sujet. La mairie n'a peut-être pas eu le nez très très creux là-dessus, puisque le fait de limiter la vitesse d'un vélo, déjà, ça pose pas mal de problèmes, mais en plus, ça ne règle pas le problème des rapports entre vélos, mais c'est surtout, ça va principalement essayer de s'atteler à régler le problème de la cohabitation entre vélos et piétons. Et donc, voilà. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Grincheux ?
Que ton micro, on n'entend rien parce que tu n'es pas devant ta bouche.
Ah, d'accord, ok. Bon, ok. Oula. Bam.
Du coup.
Ok, je vais bien le tenir droit. Je vais faire attention.
Justement, parce que. Il me semble que dans le dernier enregistrement, début juillet, on avait déjà évoqué ce sujet-là. Mm-hmm. Moi, j'avais vu à ce moment-là le radar qui avait été mis en place, et il a été depuis supprimé.
Alors en fait, ils ont fait une première installation avec des contrôles qui n'étaient pas indiqués. L'objectif, c'était simplement de faire une prise de température, on va dire. Puis ensuite, après, ils l'ont remis, ils l'ont installé ailleurs. Globalement, ce qui ressort, c'est que dans l'immédiat, il n'y a pas de sanctions qui vont être prises ou quoi que ce soit. Ça va être essentiellement pédagogique. La question est de savoir si la mairie va faire passer un arrêté visant à limiter la vitesse sous le tunnel, qui serait alors, ça serait limité à 25 km/h. Donc, ce qui est quand même une vitesse suffisante pour circuler, mais...
Comment est-ce que je sais si je suis à 25 km/h, alors qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un compteur sur un vélo?
Alors, justement, il n'y a pas d'obligation d'avoir un compteur sur un vélo. C'est un petit peu la question qu'on s'est tous posée. C'est vrai qu'on se l'est posé ensemble, toi et moi. Et il s'avère que, même si on n'a pas de compteur...
C'est drôle parce que je sais que vous en avez un.
Non.
Non, moi, j'en ai pas. Non, non.
Nous parlerons une autre fois de Strava.
On parlera une autre fois de Strava.
Mais Strava nous donne des vitesses qui sont d'abord assez fluctuantes et pas très précises. Et ça nous donne une vitesse a posteriori.
Tout à fait, tout à fait.
On n'a pas la vitesse instantanée.
Je ne souhaitais pas lancer ce sujet.
Mais voilà, je reviens sur le sujet.
De compteur sur vélo, comment on sait si on dépasse les 25 km/h ou n'importe quelle
autre vitesse? Si on estime dépasser, il faut qu'on ralentisse. J'étais un petit peu étonné, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas verbaliser un véhicule qui ne dispose pas d'un compteur de vitesse sur un éventuel excès de vitesse. Les gens doivent pouvoir le... J'ai un ami on le connaît tous les trois, qui travaille dans le milieu de l'aménagement, et qui nous a répondu mais si c'est tout à fait faisable, c'est au conducteur d'adapter son allure aux limitations de vitesse. Donc si techniquement c'est bien faisable, et ce qui explique pourquoi je crois que c'était la mairie du Canet
la limitation à 10 km/h
sur la limitation à 10 km/h, effectivement. Donc pour les podcasteurs qui n'ont pas entendu parler de cette histoire, il faut savoir que près de Nice, il y a une petite ville où le maire a fait passer une limitation de la vitesse des cyclistes sur les bords de mer à 10 km/h.
Je suppose que c'est le genre promenade des Anglais, promenade touristique où les gens se déambulent.
C'est ça.
C'est pas par plaisir de limiter.
Et oui, mais bon, la piste cyclable est sur le trottoir alors qu'on pourrait la mettre sur la route. Bon, bref, toujours les mêmes problèmes. Hein.
Dis donc. On fait une mauvaise infrastructure plutôt que de reconnaître qu'il y a eu une mauvaise infrastructure, on
limite la vitesse.
Ce n'est pas propre au vélo. On est
bien d'accord.
Non, c'est pas un problème exclusivement pour le vélo.
On est bien d'accord. Mais donc, du coup, ils ont limité la vitesse à 10 km/h et il y a eu des verbalisations. Et elles sont passées, ces verbalisations. Elles sont passées, donc, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont dû les faire sauter. Mais non, ils ont pas fait sauter, c'est tout à fait légal que de verbaliser quelqu'un qui n'a pas respecté les limitations de vitesse, même s'il n'est pas équipé sur son véhicule, pour regarder.
Et justement, l'autre jour, je peux même dire qu'il s'agissait du 2 septembre 2014, je lisais 20 minutes.
Tu réussis pas à lire plus longtemps ou...
Oui, tu sais, je suis un petit peu lente en lecture, tout ça. Non, je lisais le journal gratuit distribué dans les transports en commun, en l'occurrence dans le métro, qui s'appelle 20 minutes.
Mais c'est pas distribué à vélo ?
Pas du tout, car ces dernières semaines, je n'ai pas pris mon vélo tout le temps, et ça m'a permis donc de découvrir un autre monde, puisque l'article en question, intitulé « Le danger des fous du volant », relate une sorte de fait divers très très violent, puisque je vous lis juste le chapeau qui dit « Un militaire était jugé lundi pour avoir tiré sur une conductrice ». Donc là c'est violent, mais c'est pas ça qui m'a intéressé, ce qui m'a le plus intéressé dans l'article. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est que il y a eu il y a de nombreuses études aux États-Unis sur ce qui s'appelle la rage au volant et qu'en France on commence à en faire. Cependant, il n'y en a eu qu'une seule en 2008 par le Laboratoire de psychologie des comportements et des mobilités. Voilà, vous ne connaissez pas, mais ça peut nous intéresser. Mmh. Et dans cette étude, on apprend qu'un phénomène d'agressivité au volant intervient en moyenne tous les 60 km. Donc là, on parle de voiture, d'où les distances un peu plus importantes. Voilà, et donc j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir cette notion de... Proculus en face de moi fait des étirements, mais je ne sais pas s'il essaye d'attirer mon attention pour prendre la parole.
Non, du tout, c'est que j'ai une courbature.
Très bien.
Moi, j'ai juste peur de m'en prendre une parce que je suis à côté de lui.
Il étire ses bras. Donc, le danger des fous du volant, il existe un phénomène apparemment donc psychologique que les Américains étudient depuis longtemps qui s'appelle la rage au volant. Peut-être que les Américains s'y intéressent depuis longtemps parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'infrastructures routières et des routes. Enfin, tous les 60 km aux États-Unis, c'est peu si on
traverse à côté. Enfin, sauf qu'à la vitesse à laquelle ils roulent en même temps.
Ce que je veux dire, voilà, il y a beaucoup de routes, la voiture est très très utilisée et le pays est grand, donc on peut facilement faire de la distance. Donc je vous invite à lire cet article et j'essaierai peut-être de trouver quelque chose sur ce laboratoire d'analyse de psychologie. Et l'autre petite chose intéressante, c'était l'échange visuel est un élément pacifiant des relations humaines. Donc note Nicolas Geigen, chercheur en psychologie sociale, et l'article se conclut. La prochaine fois que vous doublez, n'oubliez donc pas de vous faire un petit clin d'œil. Donc voilà. J'ai pensé à ça justement quand vous parliez de vitesse, contrôle de vitesse, accident, etc.
D'accord.
La rage au volant.
Mais effectivement, c'est vrai que les cyclistes ont globalement beaucoup moins de problèmes et énormément moins de collisions, entre autres parce que c'est vrai qu'on a un contact visuel direct, on se voit beaucoup plus facilement et on peut communiquer plus facilement.
Je parlais pas entre cyclistes, je parlais du fait d'être en ville avec d'autres automobilistes et de savoir que oui, le phénomène de rage au volant, des gens qui la bagnole rend fou, ça existe. Voilà, c'est tout.
Merci. Alors, moi, je vais vous parler d'un article qui a été écrit par Olivier Rasmont, qui date un petit peu maintenant, parce qu'il date du mois d'avril, donc c'est pas très vieux non plus, sur les 10 chiffres méconnus de l'économie florissante du vélo. Donc, il nous présente 10 chiffres qui sont pas forcément très connus, et qui montrent que le vélo est en plein essor.
Tu vas nous en citer un ?
Alors, le chiffre d'affaires, le premier, 1,5 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du secteur du vélo en 2013, qui est en hausse de 3% par rapport à 2012.
On passe le bonjour à nos vélocistes s'ils nous écoutent.
Salut les copains.
Alors attention, c'est tout le secteur du vélo, et pas que les vélocistes.
Donc ça veut dire également les Raymond.
Non, comment ça veut également les Raymond,
ça veut dire la grande distribution.
Et puis ça veut dire également les vélos de route. Les vélos sportifs.
Oui, mais aussi les supermarchés qui vendent des accessoires de vélo.
Tout à fait.
Voilà. Les magasins de sport qui vendent des accessoires de vélo.
Autre chiffre, 303 euros, c'est le prix moyen d'un vélo neuf en France.
Génial.
Contre 500 euros en Allemagne ou 750 aux Pays-Bas.
Attends, je comprends pas. C'est toi pas et moi, on achète nos vélos aux Pays-Bas, Grincheux.
Ça signifie, même si 303 euros reste une somme élevée, quand on parle à des gens qui n'ont pas l'habitude d'acheter des vélos et d'utiliser leur vélo au quotidien, vraiment tous les jours, ça veut dire que c'est un peu plus accessible que chez nos voisins allemands, par exemple.
Mais justement, là, il détaille un petit peu où le vélo de course est produit qui est chéri par les constructeurs parce que le prix moyen dépasse les 1200 euros, alors que le vélo de ville, là on parle du vélo neuf, atteint à peine 195 euros. Donc voilà, il y a de grosses disparités en fonction des catégories de vélos, puisque ce ne sont pas les mêmes usages. Mais voilà, donc il y a plein de chiffres très intéressants de voir qu'est-ce que toutes ces valeurs et comment est représenté le monde du vélo. Alors, je vais revenir sur mon carton parce que j'ai un autre article.
Ton carton ?
Oui. Tu te souviens, je vous ai parlé d'une news avec les casques en carton.
Ah, la matière, je croyais. Non. L'accident.
Non, pas là-dessus, non. Et
excuse-moi, entre prendre un carton rouge au sport, avoir un carton comme un accident et le carton comme matière, c'était pas très clair. Voilà. Donc, le carton, cette matière méconnue et si chouette.
Si fabuleuse. Donc, là, bon, je n'ai que des articles avec des gens avec des noms un peu compliqués. Isar Gaffney a travaillé pendant 3 ans pour arriver à concevoir l'Alpha, donc un vélo en carton recyclé qui pèse 9 kilos et qui est capable de supporter jusqu'à 200 kilos.
9 kilos, c'est classe quand même. Arriver à un poids pareil, c'est pas mal.
Donc voilà, il a conçu un vélo en carton avec un traitement spécial qui permet de renforcer le carton pour qu'il soit utilisable. Et ce vélo, non seulement il pèse 9 kilos et est totalement fonctionnel, mais il a un coût de production de 7 euros.
Génial, c'est un prototype ou il en a déjà
C'est un prototype, mais en fonction de la taille, de 7 à 9 euros pour un vélo adulte. Le but est de pouvoir révolutionner le transport urbain, et notamment dans des pays en voie de développement, où comme ça, on pourrait implanter encore plus le vélo que ça ne l'est déjà, parce que c'est souvent connu pour un mode de transport peu onéreux, mais avec des vélos qui serait encore moins coûteux.
Je fais juste un aparté là-dessus. Tu dis que ça pourrait être une grande opportunité pour les pays en voie de développement. Surtout que dans certains pays, le vélo, c'est un mode de transport qui peut être vital. J'ai vu un reportage. Je me demande si j'en ai même pas parlé dans une news d'un précédent épisode. Mais j'ai vu que dans certains pays, le vélo, et spécialement le vélo avec remorque, c'est ce qui constituait les ambulances dans certains pays d'Afrique. Donc c'est pas négligeable comme idée.
Je vais, à l'instar de Proculus et de la convergence lyonnaise, je vais vous parler de la balade vélo et le pique-nique de l'association Mieux se déplacer à bicyclette, donc MDB, et l'antenne Seine-Aval de la MDB, donc la partie, la région ouest de Paris, Poissy, Carrière, Andrézy, organise donc le 12 octobre sa balade et son pique-nique, donc où ils invitent tout le monde à se retrouver devant la mairie de Poissy à 10h pour une balade vélo. Balade familiale avec pique-nique où chacun amènera son pique-nique. Donc pour avoir déjà participé à ce genre d'événement, c'est toujours des trucs, des rencontres sympathiques et d'ambiance familiale. Donc si vous êtes dans le coin de Poissy, n'hésitez pas.
J'ai reçu le magazine Carnet d'aventure auquel je suis abonné de longue date, dont le site est expmag.com. Ils ont un dossier sur... donc, Carnet d'aventure, c'est le voyage non motorisé. Donc, ça parle, entre autres, de vélo, mais aussi à pied, canoë, kayak, etc. Et dans ce numéro, il y a le dossier principal est voyager avec 5 euros par jour. Pourquoi ça nous intéresse, nous? Parce qu'ils se sont amusés à faire des petits calculs sur le voyage et par rapport aux moyens de transport. Donc là, il s'agit de voyages d'assez longue durée et pas juste de trajets quotidiens. Donc ils ont comparé la marche, le vélo, le kayak de mer et la voiture. Ils ont comparé la vitesse en kilomètres par jour, le nombre de jours pour faire 1000 km, le prix énergie pour 1000 km, le prix de l'achat et des réparations, la durée de vie également, le prix de l'amortissement pour 1000 km et le prix total pour 1000 km par personne. C'est cette dernière colonne qui m'intéresse, puisque le vélo se distingue en fait. Pour 1000 km par personne, le prix total, donc en comptant l'amortissement, l'énergie, l'achat-réparation, en pondérant sûrement par la durée de vie ou la vitesse, on voit que la marche, c'est 155 euros par personne pour faire 1000 km. Le vélo, c'est 58 euros, donc quasiment le tiers. Le vélo, pardon, sur des distances 1000 km, ça coûte moins cher finalement de se déplacer à vélo.
Qu'à pied.
Oui.
Et pas qu'un peu.
Le kayak de mer est assez sensible, enfin, ressemble un peu à la marche, puisque c'est 140 euros pour 1000 km par personne. Et la voiture, c'est 95 euros pour 1000 km par personne. Donc la voiture, c'est moins cher que de marcher,
Contre toute attente.
Contre toute attente, effectivement. Alors, je suis en train d'essayer de regarder, voilà, ce qu'ils expliquent, c'est que le prix total par personne, c'est la somme du prix de l'énergie et du prix d'amortissement. Nous l'avons divisé par deux pour la voiture, parce qu'on est souvent deux pour les voyages de plusieurs semaines en voiture. Et ils expliquent que ces calculs sont plutôt approximatifs. Mais donc, si vous voulez partir pour un tour du monde et que vous avez une somme d'argent limitée en poche, ce n'est pas en voiture, mais à vélo que vous irez le plus loin. Voilà.
Bah, très instructif, en fait.
Donc, pour le coup, on va dire, le dossier est super intéressant. Ce magazine, je vous le recommande si vous intéressez au sujet des comment partir autrement qu'en voiture ou en avion. Mais ça m'a frappé de voir le vélo ressortir. Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle au moment de ce podcast.
Moi, je dois avouer que ce qui me frappe, c'est vraiment le prix de revient de la marche, quoi. Là, je m'y attendais pas du tout.
Oui, mais c'est mis en pondération avec la vitesse aussi, je pense.
C'est mis en pondération avec la vitesse, avec le prix de l'énergie. Bah, la voiture, ça va être l'essence, mais sinon, ça va être combien il faut manger pour avancer.
Oui, donc,
de fait.
Donc l'énergie, et donc peut-être que le vélo, de ce point de vue, est assez économique. De combien il faut manger par rapport à la dépense énergétique. Donc je vous incite à, si vous voulez en savoir plus, à vous procurer ce magazine. J'ai l'impression de faire un peu une revue de presse, parce que depuis tout à l'heure je parle de magazine. Et donc pour changer, je peux vous donner des nouvelles de ce qu'ils ont appelé l'autre Tour de France. Vous vous souvenez, dans le numéro précédent, je crois, on avait parlé de la marque de vêtements, de jeans et de chaussures qui s'appelle 1083, qui correspond à la diagonale la plus longue qu'on peut faire sur le territoire français. Je vous avais parlé du fait qu'en juillet, ils faisaient un Tour de France. Ils ont relié donc Menton à Porse-Poder, qui est un peu plus loin que Brest. Moi aussi, j'ai des problèmes.
Je remarque que tu as toujours du mal... Tu t'accroches toujours avec ce nom
Oui, Porse-Poder, bah, je ne sais pas comment ça se prononce réellement.
Je pense que c'est ça, Porse-Poder.
Alors, leur tour est fini, donc ils ont effectué la traversée. À chaque étape, ils ont réalisé une... Je dis île parce que c'est... deux hommes. Voilà, je ne retrouve plus leur prénom, mais ce n'est pas deux hommes du tout. Il y a marqué Charlotte et Thomas. Bon, je vous invite à regarder. Je n'ai pas tout lu, j'ai juste vu qu'ils avaient terminé leur Tour de France, qu'ils avaient rencontré... ce qu'ils appellent des relocaliseurs, c'est-à-dire des gens qui essayent de fabriquer sur le territoire français leurs produits. Ils ont notamment rencontré leurs fournisseurs. Et cette traversée, qui a fait 17 étapes, a été faite en vélo tandem couché. Enfin, en vélo couché en tandem, ce qui est quand même assez spécial, comme véhicule, qui a été fabriqué en France. C'est aussi tout leur credo. Et voilà, donc il y a eu un suivi GPS, il y a la trace GPS si vous avez envie de le refaire, il y a des vidéos de leur rencontre, il y a beaucoup d'explications sur leur site qui est 1083.fr, et après vous faites /tour, et voilà, on voit le parcours.
On mettra le lien dans le billet de toute façon.
Tout à fait, donc je suis contente qu'ils aient réussi à faire leur projet.
Alors, ça va être ma dernière news à moi. Je ne sais pas s'il vous en reste à vous après.
Moi, non.
Donc, ça va être la dernière news aujourd'hui. Mais bon, en même temps, ça fait un petit moment quand même. Donc, en Espagne, plus particulièrement à Barcelone, y a la ville est victime de nombreux vols de vélos de par la ville. Et donc, deux jeunes Barcelonais ont créé un réseau de passionnés de vélo qui sont prêts à héberger gratuitement tout vélo qui circulent à Barcelone. Donc dans le réseau, il y a maintenant plus d'une cinquantaine de membres, donc principalement des bars, des restaurants, qui mettent un autocollant sur leur porte d'entrée pour être reconnaissables. Et ensuite, on peut librement stocker son vélo à l'abri dans un lieu de ce réseau de refuge.
Ça serait assez élégant d'arriver à faire la même chose, à lancer un mouvement comme ça en France, finalement.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut savoir qu'avant le podcast, il y a Grincheux qui est arrivé limite et qui m'a limite mis un coup de pied dans les tibias en me disant « Eh, dis donc, tu mets les news dont je veux parler sur le Facebook, flûte !» Voilà, avec un sourire, je vous rassure. Et en fait, si j'ai mis cette news immédiatement sur notre page... C'est parce qu'en fait, sur le forum de la ville à vélo, on a une personne qui nous a envoyé ce lien et qui nous a dit oh, « Dites donc, ça serait génial si on faisait ça sur Lyon ». Donc finalement, tu vois, la première idée que tu as, visiblement, il y a d'autres personnes qui l'ont. Donc pourquoi pas, hein, ça pourrait peut-être marcher.
Bah, moi, je vois le besoin et je trouve ça assez sympa de rendre service aux gens. Donc...
Voilà.
Ouais, je suis bien d'accord.
Et donc, c'est tout pour les news aujourd'hui.
Eh ben, dis donc. C'était quand même pas mal, hein.
Oui, on avait du retard avec l'été, là.
Voilà. Bon, on a tout rattrapé. Le mois prochain, ça sera plein de dossiers. Youpi !
On fera des dossiers plus gros.
Donc, ouais, passe-moi ton PC, parce que c'est... Voilà, c'est celui-là. Super. Attends, je chope. Voilà, donc ce soir, on a décidé d'être en tandem sur le même PC avec Grincheux. Donc, du coup, on se prête le portable. Voilà. Donc... Moi, ouais, j'en ai un petit peu marre d'entendre souvent les mêmes réflexions nous revenir dessus. Donc, j'ai décidé de faire une petite chronique là-dessus et j'ai décidé d'intituler ça « On ne dit pas ». Les « On ne dit pas », je vous en ferai de temps en temps, pas systématiquement, pas à tous les épisodes, mais voilà, de temps en temps, je décerai d'en parler d'un. Donc, ça nous agace particulièrement, ces petites réflexions. Elles sont nombreuses, ces petites réflexions. Elles ne sont pas méchantes, les petites réflexions, mais elles nous gavent à un point tel que si notre agacement était rémunéré, on roulerait tous sur des cadres artisanaux sur mesure et en titane. Il s'agit de ces petites phrases qu'on entend au bureau, ou au bistrot, dans le parc, ou le hall d'immeuble, et qui, si nous répondons avec le sourire, n'en sont pas moins insupportables à nos oreilles, autant que des ongles sur un tableau noir ou un disque de frein qui frotte sur un étrier désaxé. Ce soir, je vais vous parler du fameux « Tiens, v'là le sportif ». Non Jean-Yves, je ne suis pas sportif. Si j'ai choisi le vélo pour me déplacer, c'est que ça me permet de venir au taf en 12 minutes au lieu de 30, que ça me permet de sortir un peu et de m'aérer, même si c'est avec les émanations de Tadassia, j'en bouffe toujours moins que toi, et ça me permet surtout d'économiser du carburant qui me coûte une burne à chaque plein. Après, je ne nie pas que les kilos perdus, la musculature gagnée et les endorphines produites par l'effort ne sont pas un plus, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Et non, je ne regarde pas le Tour de France. Enfin... Si, mais je regardais déjà avant de me mettre au vélo utilitaire, et regarder du sport à la télé n'a jamais fait de nous des sportifs. Repense à ça devant la Coupe du Monde. Mais au fond, pourquoi nos Jean-Yves et nos Jeannivettes nous ressortent ça périodiquement? Parce que nous cataloguer comme sportifs leur permet de se cataloguer comme des gens normaux. Alors que si nous étions des gens normaux, eh ben ça ferait deux des feignasses. Les médecins préfèrent dire sédentaire. Sanction envisagée en cas de récidive. Apprentissage par cœur de tous les vainqueurs du tour, année par année, sous la houlette, de mon ancien professeur de maths qui les connaît tous. Sinon, privé de dessert. Au passage, monsieur Durieux, je pense encore beaucoup à vous. Merci pour ces chouettes années de lycée. Voilà.
Merci.
C'était ma petite chronique.
Oui, moi j'y ai encore eu droit cette semaine. C'était pas Vlal sorti, c'est Vlal cycliste, mais...
Voilà, mais ça reste quand même globalement la même chose.
Mais je pense que je vais me mettre à leur répondre. Tiens, Vlal automobiliste. Pas de terme
dépréciatif,
mais...
Ce qui est marrant, c'est qu'on nous parle toujours du Tour de France en nous disant « Ah ouais, alors t'as vu les résultats du Tour, etc. » Et tu m'avais fait une remarque, c'était toi qui m'avais fait une remarque en me disant « on pourrait très bien leur répondre. Et toi, t'as vu les résultats du dernier championnat de F1 ?»
C'est marrant parce que ça doit être assez masculin. Moi, j'ai jamais eu « Tiens, voilà la sportive ». Ah, peut-être que vous avez un physique trop sportif.
Peut-être. Ou c'est peut-être la tenue, ouais, qui fait ça.
On m'a jamais parlé du Tour de France parce que je venais à vélo.
Ou il y a peut-être aussi effectivement le phénomène « Ah, c'est une fille, elle connaît pas » ou voilà. Parce que c'est vrai que ça sort vite. Voilà.
Un autre sujet peut-être explorer.
Un autre sujet à explorer, on est entièrement d'accord.
Les femmes regardent-elles le Tour de France? Qui, pourquoi, comment?
On a une vidéo pour illustrer...
De quoi? Scalpa, vas-y, j'ai besoin de dormir chez toi. Non, c'est parce que Megor nous avait montré au dernier.
Si.
Bon, ben justement, réduire le vélo à un sport masculin, c'est quand même vachement réducteur. Et on a ici quelqu'un qui doit nous parler de comment on peut faire pour rouler en jupe en vélo, c'est ça?
Comment on peut faire? Je pense que c'est moi, parce que je pense que vous le faites moins souvent.
Mais je porte pas beaucoup de jupes.
Offre-moi un kilt et je ferai mes retours sur le podcast.
Non, me regardez pas comme ça, moi c'est hors de question.
Je veux dire, le type est pas capable de s'offrir un kilt tout seul, il n'assume pas. Mais si c'est un cadeau, il sera obligé de le porter.
Voilà, c'est ça, il pourra s'abriter là derrière et tout.
Je comprends. Ça abrite pas des masses le kilt. Je rappelle à toutes fins utiles, et vous me contredirez si je me trompe, mais le kilt est censé se porter sans rien en dessous. Je demanderai auprès de sources autorisées.
Ben écoute, la source autorisée, on en connaît une tous les trois, et elle m'a confirmé que oui, dans la tradition, on ne porte rien dessous.
Bon courage pour le vélo en kilt. Donc, ce soir, j'avais plein de sujets en tête à aborder, et j'avais envie ce soir de parler de faire du vélo en jupe. Alors, pas vraiment comment faire du vélo en jupe, parce qu'il suffit de mettre une jupe et de monter sur un vélo, hein, soyons clairs.
Ah
c'est donc ça.
Ah, mais au final, en fait, c'est simple.
Ça y est, j'ai fini.
C'est plutôt l'expérience dont tu veux nous parler.
De mes trucs et astuces qui m'ont aidé, et on n'est jamais trop aidé.
Bravo. Ah ben, bravo.
Excusez-moi, j'adore cette expression.
Oui. Après, c'est moi qu'on vanne parce que je fais des jeux de mots grivois. Ouais.
Bon, je peux parler maintenant ?
Vas-y, vas-y, vas-y.
Très bien. Ce soir, je souhaite parler de rouler à vélo en jupe, qui est une chose que beaucoup de personnes font, notamment les femmes. Tout d'abord, la première chose, c'est pourquoi on porte des jupes ? Alors, j'ose pas poser la question. En plus, je suis face aux deux, à mes deux compères. J'ose pas leur poser la question. Mais pourquoi on porterait une jupe ? Bah, tout simplement.
Confort.
Pour le confort. Mmh. Parce que. faut savoir qu'une jupe, ça sert un peu à la taille, mais ça sert nulle part ailleurs. Donc, c'est quand même très très confortable. Ça permet d'avoir des variations de poids, par exemple, sans avoir de problème de racheter des vêtements. Donc, c'est plutôt sympa. Après, il peut y avoir aussi une notion esthétique éventuelle, voilà, d'aimer porter des jupes.
On n'a pas à cracher dessus, c'est bien normal. Si...
pour des raisons soit esthétiques de montrer ses jambes, soit d'avoir des jolis vêtements, etc. Bon, donc je voulais juste rappeler ça, c'est très confortable les jupes. Donc tout simplement, la première chose, quand je dis que je roule en jupe, par exemple via internet ou le jour où je ne suis pas en jupe, à d'autres femmes, elles me disent « Mais comment tu fais pour monter sur le vélo ?» Alors, je rappelle que maintenant, il y a de plus en plus de vélos qui ont des cadres à enjambement bas, je crois que ça s'appelle comme ça.
Des cadres ouverts, oui.
Oui, il y a des cadres ouverts, c'est-à-dire que, donc, ouais, col de cygne, je pense que c'est le nom approprié. Donc, vous voyez tous le vélo de base avec la barre bien haute, qu'on appelle un cadre homme dans le langage courant, par rapport au cadre femme où effectivement il est plus ouvert avec la barre qui est vers le bas. Et maintenant il y a carrément des cols de cygne où il suffit d'enjamber au niveau de la cheville une petite barre. Donc là c'est très très facile, à la fois si vous êtes plein de rhumatisme, je pense aux gens, aux seniors comme on dit, ou si vous avez une jupe pour monter sur votre vélo. Sinon, ma technique personnelle c'est de pencher mon vélo puisque j'ai une barre, j'ai plusieurs vélos dont un qui a un cadre homme. Donc avec une barre, je penche le vélo et je passe la jambe par-dessus. En général vers l'arrière, ça peut poser problème quand vous avez beaucoup de bagages à l'arrière si vous n'avez pas de sacoche. Ou si vous avez un enfant à l'arrière puisqu'il faut être très très souple pour arriver à passer par-dessus l'enfant.
Allez, tiens-toi bien chérie, je penche le vélo.
Disons que pencher le vélo permet de réduire la hauteur du cadre et de la barre, mais si vous avez un enfant, pencher le vélo peut être un peu stressant pour lui, et si vous avez des bagages, ça peut être difficile. Mais pencher le vélo reste ma technique préférée. Alors, j'ai deux questions, en général. Enfin, on discute de deux choses entre femmes, quand il y en a une qui dit « bah oui, moi je roule en jupe, ça me pose pas de problème ». La première question c'est « mais je vais montrer ma culotte, on va voir ma culotte ». Et la deuxième question, c'est oui, mais je risque pas d'avoir froid l'hiver. Donc, je vais d'abord parler de la première question. On va voir ma culotte.
Ouais, la culotte.
Ok.
Non, non.
Je comprends pourquoi elle s'inquiète en fait.
Ne fasse pas sortir, s'il te plaît. Ne fasse pas sortir.
Donc, je m'excuse par avance auprès des poditeurs masculins. Mais ils apprendront peut-être quelque chose, donc c'est toujours intéressant pour eux. Tout simplement, déjà, il y a la longueur de la jupe. Quand elle est courte, c'est à partir de genoux, pour moi. Ça ne pose pas de problème particulier d'être en jupe. Et quand elle est longue, il faut faire absolument attention à ce qu'elle ne se prenne pas dans les rayons. Donc, pour qu'elle ne se prenne pas dans les... Ah oui, en fait, je ne parle pas tout de suite de la culotte, je parle d'abord de la longueur de la jupe. Donc, quand elle est longue, ce que vous devrez faire, sûrement, c'est de la raccourcir artificiellement, donc vous pouvez rouler la taille si la jupe se prête à cette manœuvre, de manière à raccourcir la jupe, et après vous tirez sur le bas pour la remettre bien. Ou alors, comme dans la vidéo qui a beaucoup buzzé ces derniers temps, vous avez l'histoire de la pièce et de l'élastique, ça vous rappelle rien ?
Oh oui, si, on
a... Je vois Brucus qui hoche la tête, et Grinchot qui me regarde d'un air complètement perdu, genre mais de quoi elle parle ? Donc il s'agit en fait d'utiliser un élastique, qui peut d'ailleurs être un élastique à cheveux, donc astuce, pour emprisonner une pièce à travers le tissu, et en fait l'élastique vous le positionnez entre vos jambes, Il y a une vidéo qui explique, parce que oralement c'est un peu compliqué.
Il faudra la mettre en lien.
Voilà. Oui, de toute façon, il va d'abord falloir que je voie pour comprendre.
Tout à fait. Mais je porte une jupe ce soir, donc je vais pouvoir vous montrer.
Une démo en direct.
Alors en direct, ça va être un peu dur parce que je tiens le micro d'une main. L'idée, c'est de mettre. Donc comme je n'ai pas de pièce, je vais utiliser le matériel à ma disposition. Je n'ose pas dire ce que c'est.
Si, si, c'est une capsule de bière.
Voilà, donc...
Sans vergogne.
Réputation ruinée, voilà. Merci.
Mais mes camarades de podcast me détestent.
C'est clair, mais bon, on l'invite quand même, on continue. Donc, on prend la capsule, la pièce. Alors, Grincho, si tu ne regardes pas...
Ouais, c'est toi qu'il faut regarder, parce que moi, je
connais. On prend la pièce, on la met derrière, et on l'emprisonne par l'avant en prenant toutes les épaisseurs de tissu, en mettant un élastique pour tenir, ce qui fait que ça transforme la jupe en une sorte de short. Mm-hmm. L'intérêt...
En fait, la position de Mogor, ça m'évoque les certains jeunes au lycée que j'avais. Oh, yo, Ziva, tu vas bien.
C'est un peu comme si je tenais mon baggy, en fait. Là.
Voilà, c'est ça.
Parce que je n'ai pas encore mis d'élastique. Donc, l'intérêt étant de créer finalement une couture temporaire à l'entrejambe. On pourrait aussi mettre un bouton pression sur toutes nos jupes si on voulait. Bon, l'intérêt de cette technique, à mon avis, elle est intéressante uniquement pour les jupes longues et larges.
Oui.
Pour les jupes les plus courtes, c'est contraignant parce qu'il faut arriver à faire la manœuvre. En plus, du coup, au lieu d'être en jupe confortable, on se retrouve avec quelque chose qui sert à l'entrejambe pour peu que le tissu soit pas très extensible. Donc, personnellement, je n'utilise pas du tout cette technique, même si tous les gens que je connais, collègues et amis, m'ont envoyé cette vidéo en me disant « Tiens, toi qui roules en jupe, regarde cette superbe technique !» sans penser que peut-être j'avais trouvé d'autres techniques. Depuis le temps, voilà. Un intérêt de cette technique aussi, c'est que le matériel est facile à trouver, etc. Un élastique, une pièce ou quelque chose, ou un petit objet, ça peut même être un dé ou une boucle d'oreille, va savoir.
Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo était montrée avec un penny, qui est une pièce qui aux États-Unis ne vaut plus rien d'ailleurs. C'est plusieurs fois, c'est revenu aux États-Unis le projet de virer les pennies.
Et donc ça donnait une utilité à ce fameux penny. Voilà.
C'est ça.
Et donc, ça c'était pour le... Je rentrais dans la rubrique comme ça, on va voir ma culotte. Alors, je vois Grincho qui rigole. Non, il ne s'agit pas de ne pas mettre de dessous histoire qu'on ne voit pas de culotte. Ça, on me l'a proposé aussi. Pas la peine de faire cette blague. C'est bon, c'est fait. Pour les jupes un peu légères, c'est-à-dire la jupe idéale, c'est celle qui est un petit peu large. Parce que quand vous allez pédaler, le tissu va se reposer entre les jambes. Et donc, tout simplement, ça va cacher la culotte potentielle qu'on pourrait voir, oh mon Dieu. Et pour les jupes serrées, bah, ça va remonter. Mais pour les jupes larges mais légères, le problème, c'est que le tissu risque de s'envoler bah, tout simplement avec le vent. Quand vous pédalez, vous avez le vent dans les cheveux. Et quand les jupes sont légères, bah, on a les jupes dans la figure si elle est trop longue.
Voilà, c'est pas que la culotte qu'on voit là.
Ce qui est possible, comme technique, c'est de lester sa jupe.
La technique de Marilyn, avec les mains...
Alors, on peut mettre les mains sur la jupe, mais il faut arriver à conduire sans les mains. Ça peut poser des problèmes en ville, quand on doit s'arrêter fréquemment. Non, donc on peut lester le bas de sa jupe. Donc soit vous piquez les... Je ne connais pas le nom officiel, mais les trucs pour lester la nappe de votre grand-mère, là.
Ou les fils de pêche. Des plombs de pêche.
Non, mais les trucs pour lester les nappes, c'est des sortes de pinces avec un petit poids et c'est
généralement
décoratif.
Généralement forme de fruits.
Voilà, c'est un peu décoratif, donc ça vous donnera un look sympa. Et c'est des pinces, donc ça veut dire que vous pouvez pincer à votre jupe et l'enlever. Soit vous pouvez, solution du pauvre, utiliser un trombone, parce que ça leste un peu si le tissu est très léger. Mm-hmm. Vous pouvez aussi coudre du plomb dans l'ourlet de la jupe. Ça se fait pour les rideaux, donc vous pouvez le faire pour votre jupe.
Alors là, c'est quand même assez définitif, quoi.
C'est ça, c'est le problème. C'est que c'est un peu définitif, et donc il faut vraiment être sûr de vouloir faire ça. Et pour les jupes portefeuille, j'ai trouvé l'astuce auprès de Greewee.
J'ai une question. La jupe portefeuille, c'est la jupe de tailleur, en fait.
Non. Alors, une jupe portefeuille, c'est une jupe qui est faite d'un pan de tissu qui n'est pas fermé, mm-hmm. et qu'on replie sur lui-même.
Ah, d'accord.
Donc,
Ouais.
Pardon. Il a un sourire rêveur, genre, ah oui, c'est sympa ce truc.
Non, ça va, c'est bon, alors, on arrête.
Si vous voyez un kimono ou un peignoir, c'est le même principe, mais en jupe. C'est-à-dire que vous positionnez un pan, puis l'autre par-dessus, et avec un petit lien, vous serrez les deux. Mais du coup, potentiellement, il y a une ouverture. Ce qui peut être assez gracieux, élégant, de montrer un peu quand on marche, et on peut ne pas vouloir que ça s'ouvre complètement avec le vent.
Donc Grimouille,
il y a le devant derrière, en fait.
Ah ok, Grioui, je te préviens, le jour où je viens faire un apéro à Paris, je veux que tu sois en jus de portefeuille. Voilà, c'est dit.
Grioui est une cycliste chevronnée, donc j'imagine qu'elle a des jambes musclées. Voilà. Donc l'autre truc de, on va voir ma culotte, il y a les jupes serrées et notamment les jupes crayon. Donc là, les mecs en face de moi me regardent et ils vont encore me dire « Mais c'est quoi une jupe crayon ?»
C'est ça la jupe de tailleur, la jupe crayon ?
Les jupes crayon, c'est en général des jupes de tailleur, ouais, très étroites. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elles suivent la forme des hanches et elles vont jusqu'aux genoux. Pour qu'ils se fassent encore ce sourire. Alors là, c'est plus rêveur, on peut dire lubrique à ce stade.
Non, pas lubrique, rêveur.
C'est par exemple, vous voyez, c'est dans James Bond qu'il y a Pennywise, sa secrétaire.
Ouais, oui.
Non, c'est pas dans James Bond qu'il a Pennywise ? Ou c'est dans la BD 13 ?
Non, là, bon.
Bon, bref. L'espèce de jupe de secrétaire qui, en fait, entrave un peu les femmes pour marcher parce qu'elle est très, très serrée. Ça s'appelle une jupe crayon. Et donc là, la seule solution, c'est de la remonter un peu si vous voulez pédaler, mais si elle est trop étroite, c'est pas possible. Donc, ce qu'il existe, il existe une jupe avec un zip. Donc en fait, vous ouvrez le zip et il y a du tissu en plus qui permet de rendre la jupe plus large. Et après, quand vous arrivez, vous zippez votre jupe et ça redevient une jupe crayon. Donc ce modèle existe, la Reveal Skirt de Eva Jean. C'est un modèle épuisé, mais ça coûte $160.
Mais je crois que, je sais pas si tu en faisais partie, mais j'avais vu une discussion donc sur un célèbre forum francophone de vélo qui expliquait comment transformer une jupe en jupe de ce modèle, en installant un zip.
Alors oui, on peut faire la manipulation soi-même en installant un zip soit en installant juste le zip, ça veut dire que si la jupe est étroite, après on l'ouvre, donc ça revient en principe la jupe portefeuille, c'est-à-dire que on a les cuisses à l'air. Soit on ajoute un pan de tissu, et le problème c'est que quand la jupe est en mode fermée, le pan de tissu en plus, ben on l'a contre la peau, donc ça peut être pas très confortable en fait, pas très agréable. Après, il y a ma solution très simple. N'en avoir absolument rien à faire. C'est-à-dire que je monte sur mon vélo avec ma jupe, je me dis que les gens que je vais croiser, vu que je vais très très vite, si jamais ils arrivaient à entreapercevoir ma culotte ou je ne sais quoi, ça serait très court, et bon, c'est pas, voilà, c'est pas obscène, quoi. C'est juste, je passe à vélo en jupe, tout simplement. Et l'autre truc que je peux vous conseiller, c'est de porter des jupes l'hiver, notamment quand il pleut. Pourquoi ? Parce que l'hiver, quand on porte des jupes... Oui.
Non, j'allais dire, mais pourquoi ?
Mais pourquoi ? Parce que quand il pleut, le problème, c'est que les pantalons, c'est trempé, ça colle. Alors, soit on change de pantalon en arrivant, c'est désagréable. Soit on porte des jupes avec des collants. Les collants, ça sèche très vite. Donc, c'est très intéressant de porter des jupes l'hiver. Et là, toutes mes copines disent « Ah, mais tu vas avoir froid en jupe sur ton vélo l'hiver !»
Bah, il suffit de mettre des collants, non ?
Alors, l'astuce du chef. Dans la restauration, elles le font. Alors dans la restauration, en fait, les femmes et les serveuses en hiver ont parfois des collants fins, style jambes nues, et en fait elles mettent deux paires de collants l'un sur l'autre pour avoir moins froid, parce qu'elles sont tout le temps debout, éventuellement dans les courants d'air.
C'est le principe du multicouche, c'est-à-dire qu'en faisant deux couches, tu crées une couche d'air qui isole.
Tout à fait, donc moi je conseille de mettre deux paires de collants un peu épais, opaques, je sais pas comment ça s'appelle, mais ceux qui sont un peu opaques, voire en plein hiver de mettre une paire de collants en laine et une paire de collants opaques, tout simplement dans l'ordre qu'on veut. L'intérêt est que les collants en laine vont tenir chaud, et les autres collants en style opaque vont couper le vent. Donc soit vous mettez les collants en laine par-dessus, ça dépend du look que vous voulez adopter, soit vous mettez les collants opaques par-dessus, du coup vous avez les jambes un peu plus épaisses, mais au moins vous avez chaud. Et j'ai trouvé cette astuce sur un site, un blog américain d'une cycliste, qui est en robe toute l'année. J'ai pas retrouvé son nom, donc j'essaierai de vous retrouver pour mettre le lien sur le billet. Donc en résumé, les conditions idéales pour porter une jupe, soit c'est l'hiver parce qu'il suffit de superposer les collants, en plus vous avez aucune question de s'épiler ou pas parce que vous avez des collants, donc vous en fichez complètement. Avoir un cadre à enjambement le plus bas possible, comme ça c'est confortable, vous êtes tranquille pour monter sur votre vélo. et avoir une jupe pas trop longue pour pas qu'elle se prenne dans les vélos. Il y a aussi des vélos qui ont des pare-jupes. Et pas trop courte et pas trop serrée pour pas qu'elle remonte. Donc ça, c'est la condition idéale.
Le pare-jupe, il sert moins à éviter que la jupe aille dans les rayons qu'à la protéger quand il pleut de l'eau qui va gicler partout.
Oui, mais bon, c'est pour signaler que c'est pas incroyable de mettre une jupe sur un vélo. Et donc après, je vous conseille tout simplement de mettre la tenue que vous aimez et de faire des tests. Vous montez sur votre vélo avec votre jupe. Alors effectivement, si vous savez que le tissu est léger, prenez des trombones ou des pinces à linge, histoire de ne pas avoir votre jupe dans la figure, ce qui n'est pas pratique quand on pilote un vélo. Et éventuellement, si vous n'avez pas envie de montrer absolument jusqu'à votre nombril, parce que votre jupe se soulève avec le vent. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? On ne sait jamais.
Non, pas particulièrement.
Non, c'était très intéressant, très oui. Instructif. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te vénérer grâce à ce
stade. Oula, je serais pas si catégorique. En tout cas, si vous avez des questions, je le répéterai à la fin, mais on a une page Facebook Cyclocast, un compte Twitter Cyclocast.
Un répondeur sur le site.
Voilà, et sur notre site, on a un répondeur audio. Donc n'hésitez pas, si vous avez un micro branché à votre ordinateur, à nous laisser vos questions et vos messages.
Eh ben, merci Mogor pour cet article. Très instructif. Grincheux, ça va être à toi. Je crois que tu vas nous parler du Paris Cargo Byte Meeting et que tu vas nous faire un petit compte-rendu.
Oui, alors dès que je retrouve où est-ce que j'ai mis mon article. Donc voilà, je vous ai bassiné avec le Paris Cargo Byte Meeting.
Non, pas du tout.
Tout petit peu.
Et voilà, je vous ai même pas fait de compte-rendu. Bon, j'ai un peu cafouillé avec le matériel pour faire les interviews et croyez bien que j'en suis le premier désolé.
Oui, donc...
Mais alors, comment c'était ?
Attends, moi je tiens à dire, donc on a fait des interviews, Grincheux et moi-même.
Voilà.
Et en fait, la grosse blague, c'est que ce n'est pas les micros qu'on présentait aux gens qui enregistraient.
Mais le micro du téléphone.
Mais le micro du téléphone portable qu'on utilisait. En général, moi j'ai tenu le téléphone contre mon torse et le micro vers la personne. Donc du coup, le son est complètement étouffé, on ne comprend rien.
Voilà. Et quand le son n'est pas étouffé, on entend tout ce qui se passe autour et on a un bruit d'ambiance atroce.
Donc ça n'est pas exploitable et ça nous rend triste parce que... C'était très intéressant.
On est très déçus de ne pas pouvoir vous faire partager ces moments-là qui étaient enregistrés à chaud. Au final, on aurait dû prendre nos téléphones et enregistrer directement avec le micro du téléphone. Ça aurait été plus simple. Mais bon, je corrigerai le tir et je ferai mes tests bien approfondis la prochaine fois. Alors, comment c'était ? Alors tout d'abord, c'était encore plus grand que l'année passée. Plus d'explosants, plus de visiteurs, plus. Bon, la météo, on n'a pas eu vraiment le temps idéal qu'on aurait pu attendre pour fin juin.
Mais je croyais qu'au Paris Cargo Bike Meeting, il faisait tout le temps moche.
C'est pas vrai. L'année dernière, on a eu grand soleil pendant tout l'événement.
C'est quelle édition du
oui,
Paris?
La première édition s'est faite totalement sous la pluie.
D'accord.
Ou presque.
Là, c'était quelle édition cette année?
La troisième.
Voilà, merci.
La seconde édition était sous un très grand soleil et cette année on a eu des averses, parfois diluviennes, mais également de très beaux moments de grand beau temps qui nous ont permis entre autres d'avoir un pique-nique presque au sec. L'apéro pas totalement, mais le pique-nique était au sec. Mais bon, c'est pas tout. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on avait à faire? Et ben alors, le déroulement de la journée était un petit peu à la carte, c'est-à-dire qu'on pouvait se contenter de flâner sur les stands, discuter avec les exposants, les autres visiteurs, essayer différents modèles avec plus ou moins de roues, plus ou moins d'enfants possibles. Mais ça, c'est la partie, on va dire, salon du Paris Cargo Bike Meeting. Le gros plus, c'est surtout que les participants sont volontairement ou pas, pour beaucoup, acteurs de l'événement, parce qu'on n'y va pas pour voir des stands, on ne va pas au mondial de l'auto, on y va pour rencontrer d'autres gens, on voit des exposants qui ne sont pas des commerciaux qui viennent de nous vendre la nouvelle voiture avec toutes les options. C'est des passionnés, que ce soit les participants ou les exposants. Et puis bien sûr après, il y a les épreuves. Alors, dans les épreuves en libre accès, on va dire, il y a, je me souviens de trois épreuves, tu me corrigeras, Mogor, si je me trompe. Donc, l'épreuve de livraison, donc on réceptionne un certain nombre d'objets que l'on doit aller déposer chez divers clients sans se tromper dans qui doit recevoir quoi et sans les abîmer. Donc épreuve toujours rigolote parce qu'on commence par devoir mémoriser la liste. Bien entendu, on ne part pas avec la liste avec nous, il faut la mémoriser.
et avec une énorme bassine avec un flotteur qui simulait un poisson rouge qu'on ne devait pas noyer. Bon, le poisson rouge qu'on ne doit pas noyer, il y a un concept qui m'a échappé, mais c'était très amusant quand même d'arriver à se dire qu'il faut faire attention quand même, de ne pas pédaler trop n'importe comment.
Alors attends, j'ai une petite anecdote, pour le coup c'est de bagnole. Quelqu'un m'a raconté qu'il avait appris à conduire avec un pot de crème liquide, quoi, posé sur le tableau de bord. C'était une femme en l'occurrence. Et la conduite devait pas être trop brusque, sinon la crème débordait et inondait le tableau de bord. Donc c'est un peu le même principe.
D'accord. Bonne technique. Ouais.
Prochaine fois, la crème au lieu de l'eau, hein, plus sport.
Oui, bah, j'avais vu dans des émissions à la con de voiture, justement, et ils avaient là une bassine d'eau qui était au-dessus de la tête, et donc c'était le conducteur lui-même qui se faisait arroser s'il n'était pas assez délicat. Mais revenons à nos cargos. Donc la deuxième épreuve est la journée type. Donc on part le matin de la maison, on dépose les enfants à l'école. Ensuite, on va pointer à l'usine en prenant soin de bien attacher son vélo. Puis on va repointer pour sortir. On détache le vélo, on va récupérer les enfants. Puis enfin, on va à la MAP récupérer les courses et on rentre à la maison.
C'est cliché.
J'adore.
C'est totalement cliché.
J'adore, c'est génial.
C'est
génial.
Totalement cliché.
En même temps, quand t'as un cargo, tu peux aller à la MAP, tu cherches tout ton panier dedans.
Mais
hein.
c'est tellement drôle. On s'est énormément amusé sur cet atelier là. Et puis les courses, ils nous ont foutu deux packs de lait et deux sacs de courses. Donc une fois qu'on met des gamins, il faut arriver à les faire rentrer.
Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que on entre rarement en possession d'un cargo par hasard.
Tout à fait. On a souvent
un besoin derrière de transporter des trucs.
Et quand on a un cargo, on veut toujours en transporter plus.
Oui, il n'y a pas besoin d'un cargo, hein. Moi, mes sacoches, j'essaie toujours de repousser les limites. Hein.
Oui, mais un jour, tu vas passer au cargo et tu verras encore plus.
Ouais, ça, c'est bien possible, effectivement.
Tu dévoiles ses plans.
Flûte grillée.
Et donc, la troisième épreuve dans les épreuves libres, c'était l'épreuve d'agilité, donc qui consistait en un slalom avec un demi-tour assez serré à manier, à gérer. Avec adresse, bien entendu, il fallait pas mettre le pied par terre. Alors bon, les triporteurs étaient avantagés là-dessus, mais c'était pas évident. Donc pour chacune des épreuves, on est chronométré, on a des charges imposées, un enfant ou un lest de 30 kilos, il me semble. On peut obtenir des points bonus avec des enfants ou des lests en plus. Donc moi, j'ai poussé le vice jusqu'à monter 5 enfants sur le boulit.
C'était beau, ça passait,
c'était beau. Bon, le demi-tour de l'épreuve d'agilité était quand même assez technique. Parce que on est là pour rigoler, mais on n'a pas envie non plus d'abîmer les enfants.
Et surtout quand t'en as qui sont pas à toi, quoi.
D'autant plus que voilà, il y en a qui sont pas à moi.
Alors là, pour récupérer ta caution, tu peux toujours te gratter.
Alors pour le coup, dans les interviews que vous n'entendrez pas pour problème technique, j'ai interviewé des enfants, des enfants alloués, ils étaient super contents, ils étaient hilars, finalement il faudrait qu'on arrive à réécrire et vous redire ce qu'ils racontaient, parce que c'était chouette.
J'essaierai quand même de faire voir ce que je peux faire comme traitement sur le son, s'il y a moyen de sortir quelque chose, mais...
Garbage in, garbage out.
Ouais. Le problème, c'est que même avec du traitement, on va avoir un son qui va être moche. Et alors, en plus de ces épreuves libres, il y avait trois autres épreuves qui, elles, étaient avec des horaires... parce que là, c'était des courses groupées. Donc, la course relais. Donc, on était par équipe de deux cargos. Et donc, on devait faire un tour de piste. Et donc, la piste était délimitée dans les allées sur l'esplanade. Et on se passait le témoin en se transférant toute partie du chargement. Donc, ce qui permettait d'équilibrer. Après, selon les affinités, on trouvait un équipier avec plus ou moins sportif et plus ou moins véloce. Puis ça dépendait après si on le faisait aussi pour rigoler ou pour essayer de gagner à tout prix. Il y avait la grande nouveauté cette fois-ci, c'était la course des coursiers. Alors je me souviens plus exactement combien de tours ils faisaient, mais il me semble que c'était deux tours à vide, puis après ils chargeaient un lest et ils faisaient deux tours de piste avec le lest, puis ils déchargeaient ils s'arrêtaient à nouveau pour décharger et encore deux tours pour finir la course. Ça fait une course qui est très longue et qui était très très physique. Les participants terminaient ça exténués. Et puis en plus c'était très très disputé parce que c'était principalement des coursiers. C'était la course qui leur était dédiée.
La course des furieux, un peu la course des musclés du mollet.
Ils ont fait ça sous une averse torrentielle. Si vous allez sur le site du Paris Cargo Bike, il y a des photos mais superbes où ils sont là en train de se tirer la bourre sous des trompes d'eau. C'est superbe. Mais à l'arrivée, ils étaient rincés dans tous les sens du terme.
S'il a plu, ouais.
Et puis, la dernière épreuve, l'épreuve reine de la journée, c'est la course des parlements. Donc, comme dans les départs type Le Mans pour les...
Ah, la course départ Le Mans.
Oui, Le Mans. Comme le...
On parlait pas du Palais Bourbon, non.
Les vélos tous alignés d'un côté de la piste, les pilotes tous prêts à démarrer de l'autre côté de la piste, et au top départ, tout le monde court sur son vélo, et on part dans une mêlée très impressionnante, surtout que là on était très nombreux à disputer cette course, donc avec des charges imposées, donc un lest ou un enfant. Et c'était, je sais plus combien de tours on faisait, 2-3 tours, je sais plus. Une course, moi j'ai adoré cette course où on est en train de se tirer la bourre avec des copains et puis au final tout lâcher sur la dernière ligne droite. Et puis on a terminé sur deux tours de parade après l'arrivée. Pour discuter, refaire le monde en roulant tranquillement. Et puis, suite à ça, les organisateurs ont fait tous leurs calculs avec les divers résultats, les points bonus, ceux qui ont réussi à avoir plus que ce qui était prévu comme calcul de points bonus, parce que avec des triporteurs surchargés, je ne sais plus qui c'était qui avait mis 6 enfants dans son triporteur, ils n'avaient pas prévu le cas qu'on puisse mettre 6 enfants, donc ils sont venus à bout de tous ces calculs et il y a eu la remise des prix, les lots qui étaient offerts par les partenaires, des très beaux lots des fois, puisqu'il y avait des vélos pour enfants, des casques, des accessoires divers et variés pour les vélos. Un coursier est reparti avec un monocycle d'ailleurs.
Ah, c'est quand même un lot exceptionnel, un monocycle.
Ah oui. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de lots très variés, très sympas. Et puis, il y a eu aussi la visite de stars. Il y a eu Hans, le père du Bullitt. Bon, donc ça, c'est une star locale à l'événement, on va dire. Puisqu'il était là, mais parmi aussi d'autres constructeurs moins réputés. Donc lui avait fait le déplacement depuis Copenhague juste pour le Paris Cargo Bike. Et puis des stars qui sont plus connues du grand public, comme San Severino, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter un peu et qui était très sympathique. Mais au final, je crois que la plus grande star de cette journée, c'était le mini triporteur qui était ramené par la société suisse Lovelo. Et donc c'était un petit triporteur sans doute fait sur mesure puisque c'est l'activité de cette société. En taille enfant avec des roues de 12 pouces nos enfants se sont régalés à se balader là-dessus. Il y avait notre grand qui pédalait et qui trimbalait sa sœur sur le plateau devant et ils étaient tous les deux hilars et puis tous les autres enfants se sont donnés à cœur joie des fois il fallait limite les séparer pour éviter la bagarre celui qui pourrait conduire le triporteur.
Ah, le bon vieux temps du travail des enfants. Pardon, excuse-moi.
Nous ne l'avons pas fait, mais certains parents se sont fait transporter par leurs enfants sur ce triporteur. Enfin bon, il y a des plus grands qui l'ont fait aussi. Je pense notamment à certains monsieur, enfin certains Bourgognes rouges.
D'accord.
Il y a des photos qui traînent où il est dans le triporteur de l'association MDB dont j'ai parlé plus tôt, qui est piloté par son fils.
D'accord. Ok.
Donc voilà, c'était encore une très très belle réussite, une très belle journée, et encore une fois, je voulais remercier tous les organisateurs du Paris Cargo Bike Meeting pour tout le travail qu'ils font, parce que ils font un énorme boulot pour organiser ça, pour démarcher les différents partenaires, les exposants après qu'ils soient partenaires ou pas, et faire la promotion. Et ils nous disaient que cette année, pour la première année, les partenaires, enfin les exposants venaient d'eux-mêmes s'enquérir de l'événement pour pouvoir être présents. Ils n'étaient plus obligés d'aller expliquer aux
démarcher
les exposants pour en leur expliquant ce que était l'événement, quel était le but, etc.
Donc ils commencent à atteindre le point de ils sont connus, ça vaut quelque chose, voilà, pour les exposants.
La reconnaissance.
Super.
Et donc beaucoup de public, donc beaucoup de gens qui sont venus à vélo et qui savaient où ils venaient, mais aussi beaucoup de gens de passage qui se promenaient à Vincennes cet après-midi-là et sont venus voir de quoi il s'agissait. Donc beaucoup de questions, de curiosité devant tous ces vélos.
J'ai juste une dernière question.
Vas-y.
Est-ce qu'il y avait un Moderna Trucks ?
Non.
Je sais pas.
J'en ai encore jamais vu en vrai.
Bon, j'irai faire un cambriolage en Autriche, ça va.
Mais non, mais contacte les organisateurs et trouve les coordonnées des distributeurs en France.
Ouais, non, mais je pose la question, mais voilà, c'était pour.
Non, je sais bien. Voilà, c'était donc mon compte rendu sur le Paris Cargo Bike Meeting.
D'accord, bah merci Grincheux, c'était très très instructif. Ça donne vraiment envie d'y aller. Moi, ça fait 2 ans que je suis obligé de décliner, mais que je voudrais bien venir avec vous. Mais bon, bah, dans tous les cas, ça donne envie d'y aller. Voilà. Mogor, je crois que tu as eu une réponse à la devinette de la dernière fois.
Oui, avant ça, en fait, là, je suis en train de voir que la marque, comment dirais-je, Yuba, dit, alors c'est en anglais, c'est Yuba introduced the world's first cargo bike, the flip flop, a frame that flips and grows with your child. Je le redis en français, Yuba vous présente le premier cargo bike pour enfants du monde, le flip flop. Un cadre qui flippe, donc qui se retourne et qui grandit avec vos enfants. Voilà, et donc j'étais en train subrepticement, n'est-ce pas, d'essayer de regarder en douce quand tu m'as interpellé la vidéo pour voir si ça valait le coup d'en parler ou pas. Et j'arrive pas à savoir, donc
on en reparlera la prochaine fois.
Voilà.
Non, mais je voulais plus parler de cargo, moi.
Bah, c'était dans le sujet. Attends, je vois l'info.
Non,
cargo,
c'est pour la prochaine fois.
Je réagis. Je suis trop au taquet.
Toi, plus parler de cargo, enfin, je veux dire, tu finis dans une trappe, quoi. tu parles plus.
Et pour répondre à ta question qui était la dernière fois, j'ai fait une devinette. Alors, je dis tout de suite, malheureusement, pour cette fois, je n'ai pas préparé de devinette.
Oh.
Mais les autres non plus. Ne m'en ont pas préparé.
Bon.
Genre, c'est mon truc, d'accord.
Ouais, c'est ton truc.
Je suis la seule à pouvoir en faire. Donc, voilà, donc je m'engage à en préparer une pour la prochaine fois. Alors, première chose, la réponse.
Non, oui.
Tu veux que je relise le texte?
Oui, ou relis une partie du texte parce qu'il était un petit peu long. Mais enfin, tu me diras, c'est dur.
Alors, effectivement, je vais pas tout relire. Si, je vais relire une partie.
Au début de la
citation. Excusez-moi, j'étais pas prête. Mais de toute manière, et s'il devait m'arriver malheur, je ne suis pas inquiet. Ma femme fait elle aussi pas mal de vélo, et le docteur Erwin Goldstein, un scientifique bostonien encore plus maboule que son confrère Schrader, est convaincu que le clitoris morfle autant, au moins autant que le pénis. Comme quoi, il nous restera toujours les balades à vélo. Voilà, c'était un petit texte sur la selle de vélo. Mmh. Je suis en train de m'embrouiller dans mon ordinateur. Et le texte était extrait d'un livre papier, l'anti-manuel du cycliste urbain de Hugues Seraf, S-E-2-R-A-F. Et en fait, il l'a également publié sur rue89nouvelops.com dans la tribune du Vaticinateur. En 2010, en janvier 2010. Donc comme ça, je vous mettrai le lien, vous pourrez lire ce texte qui est assez amusant. Et le truc sympa, c'est que Henri Maxime m'a envoyé un mail pour me dire, je dirais sans être sûr, que la citation vient du livre « L'anti-manuel du cycliste urbain » de Hugues Seraf. Donc bravo Henri Maxime.
Nous avons un vainqueur.
Et oui, bravo.
Bravo à toi Henri Maxime.
Donc nous avons un auditeur et un vainqueur de la devinette à qui nous allons envoyer un petit cadeau. Du coup, nous allons reprendre contact avec Henri Maxime pour pouvoir lui envoyer à son domicile un petit cadeau réel.
Ouais, on avait dit quoi déjà? Qu'est-ce qu'on avait dit?
C'était
pas un bullet, non?
Alors l'envoi d'un bullet est un peu onéreux, même si on a déjà un bullet sous la main.
Oui, mais je vais le garder pour l'instant.
Ah là là, il râle même pas trop grincheux.
Ah, l'autre, il dit ça, et je l'ai vu cet après-midi, il en avait un deuxième, quand en plus il était rose.
Oui, mais il avait pas de roue arrière.
Ah, il avait pas de roue arrière.
Ceci est une autre histoire que nous raconterons en 100 ans. Donc, bravo Henri Maxime, bravo, merci d'écouter notre podcast, déjà.
Merci beaucoup.
Merci pour ton petit mot gentil également, qui nous dit que tu nous écoutes et que ça te donne du plaisir, donc c'est toujours agréable.
Oui, non, c'est toujours agréable de savoir que ce que l'on écrit, c'est que ce que l'on dit derrière le micro, bah, il y a des gens qui l'écoutent et puis qui se fait plaisir, quoi. Voilà.
Donc on est ravis de tes compliments, on est ravis de ta participation et j'espère pouvoir avoir un petit message vocal. Donc je vais prendre contact avec toi pour cela et avoir un petit mot vocal dans le prochain épisode.
Cool. Bon, bah, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission.
Je crois aussi.
Bah, écoutez. Merci à vous et puis donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Voilà.
Et bonne soirée à vous.
Et puis
et à bientôt pour les auditeurs.
À bientôt.
Ciao ciao.
On va essayer de garder un rythme, de reprendre le rythme d'un épisode par mois.
Et pendant ce temps, roulez bien.
Et roulez bien et faites attention à vous. Bonne route.
Ouais. Bonne route.
Bonne route.
around.